Ekram Bouhtane, vous êtes maître de conférence à l'Université Clermont-Auvergne, où vous enseignez la macroéconomie. Vous êtes également chercheuse au CERDI, le Centre d'études et de recherche en développement international, et vous avez un diplôme d'ingénieur en économie et statistique. Pouvez-vous nous raconter votre parcours de recherche ?
Donc, quand j'avais commencé mon troisième cycle, la seule chose que je savais, c'était que j'avais envie de travailler sur des questions macroéconomiques qui concernent l'économie dans son ensemble, parce que j'aimais beaucoup réfléchir sur ces questions-là. Et en particulier à l'époque, j'étais très intéressée par la problématique des financements des retraites. Et donc, quand j'ai commencé mon travail, j'ai commencé à travailler effectivement sur la question de financement des retraites, en lien avec la question démographique. A priori, comme tout le monde le sait, on a des systèmes de retraite qui sont basés sur le principe de répartition. Ce sont les actifs de la génération d'aujourd'hui qui payent les retraites des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui, mais on a un contrat social qui implique que les actifs qui payent aujourd'hui ces retraites-là, ils savent que les générations suivantes vont aussi payer leur retraite. Une des limites de ce système-là, c'est que ça dépend de la structure démographique de la population. Et donc, effectivement, à l'époque, ce que je regardais, c'est le lien entre la structure démographique, de manière générale, dans des pays développés comme la France, et le financement de la retraite. Et dans le cadre de ce travail d'un mémoire en fait, de recherche, j'ai vu passer un rapport des Nations Unies qui suggérait que les flux migratoires venant de pays qui ont une structure démographique plus jeune pourraient avoir un effet favorable sur les équilibres des systèmes de protection sociale dans les pays où on a un vieillissement de la population. J'ai trouvé le rapport relativement intéressant. Ce qui m'avait étonné à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de travaux de recherche en macroéconomie qui mettaient en évidence ce mécanisme-là, cet effet-là. Donc il y avait effectivement des suggestions, il y avait ce que j'appelle généralement un discours un petit peu plus journalistique, c'est des jolies phrases, etc. Donc c'est des discussions, mais il n'y avait pas d'évidence scientifique, il n'y avait pas d'évidence quantitative qui expliquait, qui démontrait effectivement que éventuellement ces personnes-là, malgré le fait qu'eux aussi à un moment donné ils vont vieillir et qu'ils vont aussi avoir recours au système de protection sociale, comment effectivement on pouvait utiliser ça à court terme pour réduire, alléger la charge fiscale des systèmes de protection sociale. Et donc c'était simplement un opportunisme de chercheur, c'est-à-dire que c'était une niche dans laquelle effectivement il n'y avait pas beaucoup de travaux de recherche et je savais que j'avais des possibilités de contribuer. Parce qu'un petit peu c'est ça qu'on fait dans un travail de thèse, c'est qu'on est censé apporter des réponses innovantes à certaines questions. Et c'est comme ça que j'ai commencé effectivement à travailler sur l'impact économique des migrations internationales en prenant ce point de vue, cette approche macroéconomique. En 2005, les principaux travaux qui existaient par des collègues en France, c'était focaliser sur les implications des migrations plutôt sur les pays d'origine et non pas sur les pays d'accueil. Et économie des pays d'accueil, et plus précisément cet aspect global, parce qu'effectivement, j'ai toujours eu en tête qu'à un moment donné, il fallait quand même que je travaille sur la question de la protection sociale, qui était mon point de départ. Et pour arriver à la protection sociale, j'y arrive aujourd'hui, donc en 2018. Initialement, j'ai commencé à regarder effectivement l'impact de la migration sur la croissance économique, sur le taux de chômage moyen en fait dans les pays. Donc j'ai commencé effectivement la réflexion de cette façon et j'avais besoin de ces éléments-là pour arriver donc, avec une publication en 2018 où effectivement on prend en considération cette question de transfert, cette question de dépenses de protection sociale explicitement dans le travail économique. Dans l'étude qu'on avait publiée en juin dernier dans la revue internationale Science Advance, notre point de départ, c'était, comme beaucoup de Français, je suppose, et beaucoup d'Européens, on a assisté effectivement à ces images qu'on avait vues dans les médias avec l'arrivée d'un nombre important de demandeurs d'asile sur le continent européen. On faisait partie de ces chercheurs qui travaillaient depuis un certain nombre d'années sur les implications économiques des migrants permanents, notamment dans les pays européens. Pourquoi on s'intéressait particulièrement aux migrants permanents ? Parce que les migrants permanents, Ils intégraient ce qu'on appelle la population résidente, ils avaient accès au marché du travail, et au même titre que les populations installées depuis longtemps dans le pays, ils contribuent, ils travaillent, etc. Et donc effectivement, notre travail, les années précédentes, portait particulièrement sur cette population des migrants permanents qui intègre la migration de travail, la migration familiale, la migration des étudiants, et qui a intégré une composante humanitaire, mais la composante humanitaire qui est intégrée dans la migration permanente, ce sont les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou de bénéficiaire de protection subsidiaire, c'est-à-dire ce sont les personnes à qui les pays d'accueil ont reconnu la protection. Et c'est vrai que la question humanitaire, on considérait effectivement qu'il n'y avait pas d'intérêt particulier puisque l'accueil de ces populations-là relevait de la Convention de Genève et que la question économique était un petit peu moins posée. En 2015, il y a eu un changement, même dans la réflexion chez les économistes. Pourquoi ? Parce qu'on a assisté effectivement à ces images très touchantes, hein, comme pour le reste de la population. Et ce qu'on a en fait un petit peu constaté, c'est que l'argument économique était extrêmement présent dans le débat public. Que ce soit du point de vue ce qu'on peut appeler les personnes qui souhaitent bien accueillir ces populations de demandeurs d'asile, qui disaient dans le discours, il faut bien les accueillir, mais on sait que ça nous coûte. Ça va nous coûter, mais il faut, par devoir humanitaire, les accueillir. Mais il y avait une espèce de consensus qui est, c'est une charge économique. Que l'accueil de ces populations était une charge pour les économies européennes, et plus précisément, c'était une charge fiscale. L'Europe sortait d'une période de la crise de la dette souveraine. Les comptes de finances publiques européennes n'étaient pas nécessairement dans un état favorable à l'exception de certains pays. Donc cet argument fiscal, cet argument économique était vraiment au centre du débat. Et on avait d'une part, dans le discours public, on ne veut pas les accueillir parce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir, ou on voulait bien les accueillir, mais on n'a pas les moyens de les accueillir. Et ce qui était étonnant, c'est que lorsqu'on a commencé à regarder, est-ce qu'il y avait une étude ou est-ce qu'il y avait des éléments factuels qui prouvaient, qui mettaient en évidence ce coût économique ? Il n'y avait pas d'étude économique qui a essayé d'analyser les implications sur les finances publiques ou sur les économies des flux de demandeurs d'asile. Alors peut-être une petite précision, le coût économique n'est pas la même chose que le coût budgétaire. Donc bien sûr que la prise en charge dans un premier temps d'un demandeur d'asile, ça génère un coût budgétaire. Il y aura une ligne budgétaire qui est simplement liée au fait, effectivement, qu'à leur arrivée, il va y avoir une prise en charge qui va être financée par les finances publiques. Mais le premier élément, c'est que cette prise en charge, elle ne disparaît pas de l'économie. Donc, c'est le premier élément qui est assez simpliste. Cet argent-là, en fait, cette prise en charge, c'est des infrastructures d'hébergement. C'est de l'argent qu'on reverse peut-être, en fait, c'est l'allocation pour demandeurs d'asile qu'on a en France, qu'on donne aux demandeurs d'asile. Et cet argent, après, il est réinjecté dans l'économie. Donc toujours en économie, en fait, même si on a cette approche comptable, il y a d'une part les dépenses et d'autre part les recettes. Donc jusque-là, c'est un aspect comptable. Le deuxième élément, on a un aspect dynamique. Un demandeur d'asile, il arrive aujourd'hui, il va peut-être s'intégrer en fait dans l'économie plus tard. Et donc si on veut vraiment évaluer correctement un coût ou un bénéfice, il faut prendre en considération un certain nombre d'années, prendre en considération cet aspect dynamique. Le troisième élément, c'est que l'économie, tout est lié en économie. C'est-à-dire que les dépenses des demandeurs d'asile, c'est peut-être aussi des salaires pour du personnel de l'OFPRA, pour du personnel... Donc tout est lié. Donc il y a des implications, effectivement, il y a des liens économiques. Et que si on veut faire le travail, et c'est pour ça qu'en fait il y a des économistes qui sont payés pour réfléchir, pour faire des analyses économiques, c'est l'évaluation des implications économiques, considère aussi ces liens entre les différentes dépenses. Et donc, là, on avait vu aussi qu'on avait, avec mes co-auteurs, on a dit, bon, allez, il est temps de se lancer, on va vérifier. Alors, tout le monde nous parle d'un coût, vérifiant dans les données si ce coût-là est présent. Voilà. Donc ça, c'était le point de départ. Et donc, on a utilisé comme en fait une approche standard en sciences, On a utilisé toutes les données disponibles, ce sont des données publiques. Les flux de demandeurs d'asile, on le mesure parce qu'au moment où les personnes déposent une demande d'asile dans un pays, que cette demande d'asile est enregistrée et qu'elle est en cours d'instruction, on a en fait l'information statistique. Pour les migrants permanents, on utilise les données de population. C'est ça les deux variables migration. Et pour les variables économiques, on utilise les variables économiques qui sont couramment utilisées pour d'autres questions économiques. Et plus précisément, on s'était situé par rapport en fait à une littérature qui est en finances publiques, qui travaille sur la question de l'impact de la politique budgétaire. Donc c'est un autre sujet, mais il y a déjà un modèle économique qui est validé par la littérature et qu'on va nous utiliser pour voir s'il y a des implications de la migration. Donc, données publiques accessibles à tout le monde, ce sont des statistiques à l'échelle des pays, donc on ne fait pas des choix. Sur l'ensemble de la période pour laquelle on a l'information statistique, donc on n'a pas fait de choix non plus par rapport aux périodes, donc on a utilisé toute l'information disponible, et on a utilisé une méthodologie statistique qui est connue et reconnue. Et d'ailleurs, l'économiste qui a introduit cette méthode statistique en économie, il a eu le prix Nobel en fait en 2011, c'est Christopher Sims, et justement, il a introduit cette méthode économétrique, méthode statistique, parce que pour étudier les variables économiques, où c'est compliqué de voir quel est l'effet d'une variable sur une autre, parce qu'en économie, tout est lié. Et donc, on utilise cette méthodologie, on utilise des données publiques, et on arrive effectivement à avoir donc des résultats à partir de ce modèle-là. Qui fait parler les données en fait. On fait très peu d'hypothèses dans le cadre de ce modèle, on n'a pas beaucoup d'hypothèses, c'est la force en fait du résultat. Et on aboutit effectivement au résultat où on a étudié à la fois les implications des flux de demandeurs d'asile sur l'économie et les implications des flux des migrants permanents. À l'issue de notre évaluation statistique, ce qu'on démontre, c'est que les effets économiques des demandeurs d'asile ne sont pas les mêmes que les effets économiques des migrants permanents. Donc ça, c'est un premier résultat qui était attendu. Le deuxième résultat, lorsqu'on regarde le flux de demandeurs d'asile, c'est au moment où ils arrivent en fait dans les économies d'accueil, on n'observe pas d'effets visibles. Des faits, ce qu'on appelle en économie statistiquement significatifs, sur les économies d'accueil au moment où ils arrivent. Et plus précisément, pendant les quatre premières années, suivant l'arrivée en fait, d'un flux de demandeurs d'asile, il n'y a pas d'effet statistiquement visible sur le revenu national, donc sur le niveau de vie moyen dans les pays qui les accueillent, sur les taux de chômage, ou sur les finances publiques. Il y a une augmentation des dépenses, mais qui n'est pas statistiquement en fait visible. Il y a aussi une augmentation des recettes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer le solde budgétaire, donc la différence des deux, il n'y a pas d'effet visible. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 5 ans, donc autour de 5-6 ans, après leur arrivée, on observe qu'il y a un effet positif sur les économies d'accueil. Cet effet positif reste relativement moins précis, moins visible que les effets qu'on capture pour les migrants permanents. Donc, bien sûr, on explique ce résultat par le fait que les demandeurs d'asile ont des difficultés en fait, à l'arrivée de s'intégrer tout de suite dans les économies d'accueil. Il y a des procédures qui sont la procédure de la demande d'asile et qu'il n'y a qu'une petite partie des demandeurs d'asile qui arrivent dans les pays d'accueil qui accèdent au séjour permanent, leur permettant d'avoir les mêmes droits et les mêmes obligations que la population résidente. Par contre, lorsqu'on regarde les migrants permanents qui n'ont aucune contrainte, c'est-à-dire que dès lors qu'ils arrivent, ils ont la possibilité de travailler, de profiter des dépenses publiques et contribuer aux recettes fiscales, ce qui est intéressant de voir, c'est que les migrants permanents, dès leur arrivée, dès l'année où ils arrivent, ils ont un effet qui est positif sur le niveau de vie, donc on a une augmentation de la variable niveau de vie qu'on mesure avec le produit intérieur brut rapporté à la population. On a une augmentation du taux d'emploi et on a une diminution du taux de chômage. Donc jusque-là, c'est des résultats qu'on avait déjà établis pour les migrants permanents, mais ce qui est le nouveau résultat dans cette étude, c'est qu'on montre que que l'augmentation des recettes fiscales liées aux migrants permanents fait plus que compenser l'augmentation des dépenses publiques totales. Et donc on a un effet, net sur le solde budgétaire qui a un effet positif. Et donc effectivement, les flux migratoires, lorsqu'ils augmentent, si on considère cette période sur laquelle on a travaillé, donc de 1985 jusqu'à 2015, c'est sur cette période-là, compte tenu de l'information dont on dispose, les flux des migrants permanents, non seulement ce n'est pas une charge économique, même les flux migratoires dans leur ensemble, y compris les demandeurs d'asile, ce n'est pas une charge économique, voire c'est plutôt une opportunité économique. On a plutôt, en fait, ce qu'on arrive à mesurer, ce sont plutôt des effets positifs pour les économies d'accueil. Je vais dire deux mots, c'est comment on explique ces résultats-là. Et donc pour les migrants permanents, parce que c'est une question qu'on a pu creuser par ailleurs pour les migrants permanents, puisque les migrants permanents en disposent de plus d'informations que sur les demandeurs d'asile. Donc on a regardé avec des détails. Donc dans les dépenses publiques, ce qu'on avait constaté, c'est que les transferts, donc les transferts c'est principalement les prestations sociales, donc les transferts diminuaient, les transferts par tête rapportés à la population, diminuaient suite à l'arrivée des migrants. Et si on regardait les dépenses sociales, donc on regardait les dépenses familiales, parce que la question toujours se pose, en fait, dans l'opinion publique, les migrants, ils arrivent, ils ont beaucoup d'enfants, donc ils augmentent, ils profitent des prestations familiales. Sauf que dans l'équation, on oublie les prestations retraite et qu'on est dans des pays où les prestations retraite représentent la majorité de nos transferts sociaux. Alors on a testé, on a regardé quelles étaient les implications des flux migratoires sur les dépenses familiales par tête. Comme attendu, les dépenses familiales par tête augmentent suite à l'arrivée des migrants. D'autre part, on a une baisse des dépenses de retraite rapportées à la taille de la population. Et comme on l'attendait aussi, c'est que lorsqu'on prend l'ensemble des dépenses sociales dans leur ensemble, donc les retraites avec les familles, au final, l'effet est plutôt en fait une baisse des dépenses, donc une baisse de la charge des dépenses sociales rapportées à la population. Et donc, en fait, c'est un mécanisme qui est lié à la démographie. Les migrants qui arrivent sont jeunes, donc ils sont à 80% âgés de 15 à 64 ans, donc en âge de travailler. Et plus précisément, ils sont à 65% âgés de 18 à 34 ans. Donc ils sont à un âge effectivement où ce sont des contributeurs nets au système de protection sociale où il y a des transferts intergénérationnaux. Malgré ces conclusions plutôt positives, on est très prudent en fait dans la partie recommandation, parce que là c'est la partie explication. On n'a absolument pas un message où on dit qu'il faut absolument utiliser la migration pour relancer nos économies européennes, pour deux raisons. La première, on ne parle pas d'une politique budgétaire où il faut simplement s'endetter ou lever des impôts supplémentaires pour faire une politique économique. On parle de personnes qui décident ou pas de venir dans un pays. Donc on parle d'hommes et de femmes, et voire des enfants. Et la deuxième question, c'est que l'évaluation d'un impact économique de la migration n'englobe pas toutes les conséquences de la migration, parce que la migration, c'est une question qui relève de plusieurs disciplines en sciences sociales, mais même chez les scientifiques. C'est une discipline qui est traitée par les démographes, par les sociologues, par les ethnologues, par les juristes. Et donc pour vraiment faire des réponses en termes de politique économique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les années à venir pour concilier tous les aspects liés à ce défi migratoire. La question économique est importante, mais ce n'est pas la seule question qui doit être dans le débat. Et c'est la raison pour laquelle ce qui nous intéresse dans les études qu'on effectue, et principalement dans cette étude, c'est que ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas une charge économique compte tenu de l'information dont on dispose. L'arrivée de migrants dans les pays d'accueil européens et l'arrivée des migrants en France en particulier, a eu plutôt des effets favorables pour les économies. Le problème, c'est que dans une société, il n'y a pas que l'économie, et que la question migratoire, c'est une question qui passionne le débat public et qui pose des problèmes diplomatiques et politiques épineux dans le débat. Mais ce qu'on pense, c'est que ce n'est pas la peine de se charger d'un fardeau supplémentaire qui est la question économique, si le problème qui est posé par la question migratoire, c'est d'autres questions d'intégration, d'assimilation, de à quelle société on aspire, donc des questions sociétales. Ce n'est pas la peine de s'encombrer avec un argument supplémentaire qui n'en est pas un, qui est la question économique. L'argument économique est souvent utilisé dans le débat public parce que c'est facile d'utiliser l'économie. Les personnes pensent avec un raisonnement simpliste, en ayant une vision, ce qu'on appelle une vision partielle, pensent qu'effectivement, c'est plus facile de manier en fait un argument économique que de justifier et de discuter la question sur un plan culturel, assimilation, les questions religieuses. Donc c'est plus facile d'assumer une question de coût-bénéfice qu'une question, effectivement, de discuter profondément sur une question sociétale. Donc je pense que c'est la raison principale qui explique qu'on se saisit plus facilement d'un argument économique. Comme ça, en fait, on ne se complique pas la vie, en fait, avec d'autres arguments. Les arguments simplistes sont aussi très, très populaires, en fait, dans la discussion. Donc les gens aiment bien, en fait, avoir cet argument simpliste de type un immigré, un chômeur. Donc si les immigrés n'étaient pas là, donc on n'aurait pas ces chômeurs-là. Donc ça... Effectivement, dans l'opinion publique, c'est cet argument-là, il est assez, il a une force où les gens se reconnaissent peut-être parce que c'est simpliste. De toute façon, chaque individu va se faire son opinion à un moment donné. C'est juste, en fait, l'offre aujourd'hui, en termes de migration, c'est une offre qui est proposée par les médias grand public et qui est généralement monopolisée, où la parole est monopolisée par des polémistes qui ne travaillent pas nécessairement sur la question, qui n'ont pas d'évidence scientifique ou statistique à opposer et qui sont juste là en fait à raconter toujours la même chose. En fait, on a l'impression, je sais pas, moi j'ai 38 ans, ça fait plus de 30 ans que j'écoute exactement les mêmes arguments en France sur la migration, et ça dure en fait. Maintenant que je travaille sur la question, je regarde un petit peu aussi les journaux des années 60-70, c'est toujours les mêmes arguments en fait qui reviennent. Donc pourquoi pas, discutons. Mais les personnes qui sont en train de nous raconter que c'est un coût économique, c'est une charge pour nos économies occidentales, j'aimerais bien qu'ils me disent aussi sur quelle évidence, eux, ils se basent sur ces questions-là. Et ne pas simplement nous sortir un chiffre de type le projet de loi finance qui a été voté en 2018. Il y a 1 milliard pour la mission immigration, asile et intégration, donc la migration coûte 1 milliard. Très bien, regardons combien coûte l'éducation. Alors, si on veut avoir ce genre de discours pour toutes les politiques publiques qu'on met en place dans ce système qui est un acquis social, ce système de protection sociale qu'on a en France, si on va sortir chaque chiffre séparément et faire une discussion là-dessus, ça n'avance pas le débat.